parole, ça y est. Voilà, bonjour Roselyne qui nous a donné la parole. Bonjour aux auditeurs de Comaguerre, qu'on retrouve comme depuis longtemps tous les mardis à 15h, mais, et j'en profite pour le dire immédiatement, dès la semaine prochaine, dès le mardi 19, l'horaire de Comaguerre est décalé d'une heure, c'est-à-dire que l'émission de direct commencera à 14h au lieu de 15h. Ceci étant, pour ceux qui ne peuvent pas écouter le mardi après-midi, vous savez que toutes nos émissions sont sur le podcast de Radio Galère pendant des mois et des mois, et que vous pouvez, si c'est une émission encore plus ancienne, les demander en envoyant un mail à Comaguerre, puisque nous avons, nous, des archives encore plus lointaines que les podcasts de la radio elle-même. Voilà, donc n'oubliez pas, notez-le, à partir de mardi prochain, 19 septembre, les émissions de Comaguerre commencent à 14h en direct. Et on traitera bien entendu des mêmes sujets. Ce n'est pas un changement du tout d'orientation de notre travail. C'est un horaire plus commode pour le confort de la radio. Puisque j'en suis... Non, je ne suis pas dans les annonces. Si, une annonce. Donc demain soir, écoutez à l'heure habituelle, 20h, l'émission des dossiers de Comaguerre, qui est toujours les deuxièmes mercredis du mois. Et demain soir, je vous invite... Vous insiste beaucoup, essayez d'écouter l'émission de demain soir ou à défaut, écoutez-la en podcast car il s'agit d'une émission d'une heure et demie qui parle de la médecine cubaine. Et elle est passionnante parce qu'elle est le fruit de deux jeunes journalistes françaises qui ont couru le risque professionnel, y compris d'expliquer ce que c'est que la médecine cubaine. Ce qui veut dire qu'elles ne se sont pas fait nécessairement que des amis, mais elles ont eu le courage de le faire. Et la médecine cubaine, c'est beaucoup plus que les médecins cubains qui vont ici et là secourir des gens qui sont victimes d'une catastrophe naturelle. C'est un système médical qui est valable pour tous les Cubains, qui est organisé de telle façon que tous les Cubains, quelles que soient leurs conditions, leurs richesses, etc., ont un accès gratuit à la médecine permanente, avec un encadrement médical qui est un des plus importants du monde. C'est-à-dire, c'est gratuit, ça c'est sur le papier, c'est très joli. Concrètement, un Cubain qui veut voir un médecin le voit dans la journée dans son quartier. C'est ça que ça veut dire. Alors, ça nous fait rêver, mais ce rêve est... En réalité, ce rêve est devenu une réalité à Cuba et bravo au gouvernement cubain d'avoir eu cette initiative et de la poursuivre, quelles que soient les difficultés. Donc, c'est demain à 20h et écoutez-la en podcast si vous ne pouvez pas l'écouter demain soir en direct. Mais au moment où on parle de catastrophes naturelles, de médecins ici et là et tout, c'est un enseignement extrêmement riche, c'est-à-dire on a un pays qui, pauvre, a décidé que la priorité de la priorité, c'était la santé de son peuple d'abord et la santé de tous les habitants de la planète. Et il s'est donné les moyens de faire un geste chaque fois qu'il peut le faire. Et j'insiste encore pour rester un dernier instant sur le sujet. Il faut savoir que dans notre Europe riche, aujourd'hui, il y a des pays de l'Union européenne, et pas des moindres, je parle de l'Italie, qui sont obligés, parce qu'ils n'ont plus de médecins dans leurs hôpitaux, de faire venir des médecins cubains pour que l'hôpital ne ferme pas. Alors, c'est bien joli d'être un pays riche qui donne des leçons au monde, etc., qui envoie des armes ici et là pour faire les guerres, mais un pays comme l'Italie, et comme la France, on n'est pas passé loin, puisqu'il faut savoir que des médecins cubains ont été acceptés à la Martinique et à la Guadeloupe pendant le Covid, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas dans des départements de la République française colonisés, j'insiste quand même là-dessus, il n'y avait pas assez de médecins français sur le territoire de la République dans ces deux îles des Caraïbes. Bon, ça, il faut s'en souvenir aussi. Et à la place, il y avait des médecins cubains. Donc voilà le contexte de cette émission passionnante et j'espère que vous pourrez l'écouter d'une façon ou d'une autre. Et puisqu'on en est à parler catastrophes naturelles, on va commencer par ça, puisque vous avez entendu parler beaucoup du tremblement de terre au Maroc. Alors vous en avez entendu parler comme de toutes les catastrophes naturelles et j'allais dire peut-être un peu plus que d'autres. Car il faut bien savoir que des catastrophes naturelles, il y en a, hélas, un peu partout. Des tremblements de terre, il y en a, hélas, un peu partout. Et à G assez continu. Et en plus, on est probablement rentré dans une période où la croûte terrestre se bouge, parce qu'il faut savoir que le tremblement de terre, c'est une faille qui craque entre deux plaques tectoniques. Mais en fait, le mouvement des deux plaques tectoniques, les plaques tectoniques, c'est très, très grand. Et donc, il y a des espèces de vibrations des plaques tectoniques qui peuvent se répercuter sur des milliers de kilomètres. Et on est dans une période de ce type-là. Mais je voulais simplement souligner qu'il y a eu, à la fin de l'année 2022, vous en souvenez sans doute, un très gros tremblement de terre dans l'est de la Turquie et dans le nord-ouest de la Syrie qui a fait... autant qu'on connaisse aujourd'hui, Habib nous confirmera, autour de 50 000 morts, et que la couverture médiatique a, hélas, je le regrette, été moins importante. Et encore moins importante pour la Syrie, puisque heureusement la Syrie a eu moins de morts que la Turquie elle-même, mais les morts syriens n'intéressaient pas beaucoup les médias français. C'est là qu'on peut s'insurger comme je le fais, c'est-à-dire qu'un mort d'une catastrophe naturelle, c'est un mort quelle que soit sa couleur, sa nationalité, sa religion. Donc on doit lui donner autant de soins, autant de sympathie, autant de commisération si nécessaire, quel que soit l'endroit où il habite. C'est pas du tout ça que font nos médias. Et c'est ça que je critique. Qu'elles le fassent, c'est bien. Qu'elles le fassent tout le temps, ça serait beaucoup mieux. Et hélas, des tremblements de terre, il y en a. Et il y en aura encore. Dernière chose, et je reste un tout petit peu sur le sujet. Il faut savoir, souvenez-vous, le tremblement de terre de Fukushima. Vous souvenez de alors, ce tremblement de terre qui se fait en bordure de mer et donc qui occasionne un tsunami, puisque la terre bouge et la mer bouge aussi. Le tsunami est responsable de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Tout ça, vous en souvenez. Il faut savoir que ce tremblement de terre était d'une magnitude 7 sur l'échelle de Richter, c'est-à-dire plus forte que la secousse du Maroc. Bon. Ce qu'il faut savoir, et c'est triste à dire, et c'est tant mieux pour les Japonais, il y a eu 3 morts. 3 morts au Japon à cause d'un tremblement de terre plus grave que celui de celui du Maroc. Bon, pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un pays, alors là, il s'agit d'un pays riche, mais qui s'est adapté depuis des siècles au fait qu'il vit sur une faille et qu'il y a des tremblements de terre assez régulièrement. Et donc, il y a des politiques de construction qui sont en vigueur et qui évitent que ce soit un désastre. C'est tout. Alors effectivement, on sait exactement à l'envers, et je ne veux pas charger le régime d'Erdogan, encore qu'il le mérite en l'occurrence. Il faut savoir qu'une bonne partie des bâtiments qui se sont effondrés au moment du tremblement de terre dans l'est de la Turquie n'obéissaient pas aux règles antisismiques qui sont dans la loi turque. C'est-à-dire que c'est joli, on met ça dans la loi, et puis les entrepreneurs de bâtiments ne respectent pas la loi, et l'État laisse faire. Donc on a un État coupable, on a un État qui laisse mourir sa population, alors qu'il sait très bien comment il faut faire pour éviter des morts. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas, alors j'allais même ajouter, il ne le fait pas parce que c'est la partie est du territoire turc, et que là, il y a beaucoup de Kurdes, il y a beaucoup d'Arabes, etc. Et au fond, ce n'est pas le premier souci de Ankara ni d'Istanbul. Ça, c'est un petit complément. Donc la politique est partout, y compris dans la commisération. C'est de ça qu'il faut que nous sortions. C'est-à-dire que ce n'est pas normal qu'un mort ici vaille plus cher et fasse plus pleurer qu'un mort ailleurs. Les catastrophes naturelles, c'est pour tout le monde et elles méritent toute notre égale considération. Alors, j'ajouterai pas, parce que c'est, à la limite, c'est la cuisine politique, que la France a proposé ses services et que le Maroc l'a refusé. Mais il y a tout un contentieux politique, diplomatique, entre Macron et le roi du Maroc. Après tout, Macron n'a eu que ce qu'il méritait. Il s'intéresse principalement à l'Algérie. La France a continué à reconnaître la République arabe sahraoui comme indépendante, à l'inverse, par exemple, de l'Espagne. Et donc, effectivement, pour le souverain marocain, c'est inacceptable. N'en parlons plus, il y aura d'autres secours. Dernière chose, je signale quand même, mais ça n'a pas eu d'effet concret, à moins que Habib me dise le contraire, on a annoncé un soutien israélien marqué au Maroc. Alors, je ne sais pas quelle forme il a pris, s'ils ont envoyé des avions, du matériel et tout. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de détails sur les opérations concrètes.
Je ne sais pas si tu en as... On n'a pas suffisamment de renseignements là-dessus. Voilà. Mais je sais que l'État d'Israël s'est mobilisé énormément pour le Maroc, d'une part, et d'autre part, ici en France, il y a une mobilisation de la part, moi je dis des sionistes.
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
Appelons-les pour ce qu'ils
sont. Une mobilisation très, très, très importante en France pour le Maroc.
Voilà. Alors, ce qui veut dire, là aussi, je reviens sur mon propre terrain, si vous êtes un Arabe en Palestine, on vous laisse mourir, voire à l'occasion, on vous exécute. Et si vous êtes un Arabe qui vit dans les hauteurs au-dessus, dans l'Atlas, au-dessus de Marrakech, là, on vient à votre secours. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, ce rapport humain ? Ce n'est pas un rapport humain, c'est un rapport seulement politique. Intolérant, raciste. C'est-à-dire que les Marocains, c'est de bonnes victimes, les Palestiniens, c'est de mauvaises victimes, tant pis pour eux. Ça aussi, c'est très, très douloureux à écouter, mais pourtant, c'est la réalité.
Tous les êtres humains méritent d'être secourus, quelle que soit la race, la couleur, pour moi, c'est pareil. Voilà. D'une part, d'ailleurs, je disais, pourquoi on n'a pas fait une caisse une caisse importante aux Nations Unies pour ces catastrophes naturelles, surtout les catastrophes, parce que ce sont les pauvres qui...
Tout à fait. Et ça relèverait très clairement du travail des Nations Unies si elles s'employaient à faire ça. Mais pour l'instant, les Nations Unies s'engagent à envoyer des casques bleus dans les zones de conflit et n'ont jamais abordé ce sujet des catastrophes naturelles. Ce serait pourtant vital. Et ça éviterait, je profite de l'occasion, que M. Gutiérrez se mêle des affaires des autres alors qu'il n'en a pas le droit. Pourquoi ? Alors, j'explique. M. Gutiérrez s'est permis de dire qu'il ne voulait pas accueillir à l'Assemblée générale de l'ONU la nouvelle équipe dirigeante du Niger. Droit M. Gutiérrez ose-t-il dire ce genre de phrase ? Il n'est rien en droit. Il est simplement le haut fonctionnaire qui fait fonctionner la boutique à New York.
Payé par les États-Unis.
Qui organise le travail. C'est un technicien de la gestion. Il n'a aucun pouvoir politique. Et ce monsieur n'a aucun droit de donner des ordres ou de formuler des ordres par rapport à des chefs de gouvernement étrangers. Il est totalement en dehors de ses fonctions. C'est bon à rappeler parce que ce n'est pas la première fois qu'il dérape. On est content. Alors, on est content à Paris, à Londres, à Washington, qu'il fasse ce sale boulot-là. Ça évite que d'autres le disent et se couvrent de ridicule. Donc, lui, il peut dire ce qu'on pense, en fait, concrètement au Quai d'Orsay, au département d'État, au Foreign Office. Et il est, à la limite, on va dire, il est payé pour ça. Et comme ça, ça évite à ceux qui tirent les ficelles de dire « Ah, c'est lui qui l'a dit, c'est pas nous ». Mais en fait, ce que dit M. Gutiérrez, c'est ce que pense et ce qu'on lui a dit de dire à Washington, à Londres et à Paris. C'est tout à fait clair. Il est là dans un rôle complètement inacceptable. Il est hors de sa possibilité, hors de son mandat. Bon, j'espère qu'il lui en sera tenu rigueur, encore qu'il ait beaucoup de soutien dans les couloirs de la maison de verre, comme on dit.
Ouais.
Bien. Ceci étant dit... Voilà déjà beaucoup de choses dire en entrée.
Bernard,
on va parler, Bernard, puisque j'ai cité le Niger et j'ai cité l'Afrique.
Bernard ?
Oui ?
On n'a pas parlé quand même des grosses inondations.
On ne s'entend pas du tout.
Ah.
Alors, parce que Roselyne, j'avais demandé à Roselyne de nous faire un petit point. Vous savez qu'il y a eu des élections régionales et municipales en Côte d'Ivoire. Non ? Vas-y. Non ? T'arrives pas, ça passe pas. Bon, donc en fait, je dis en gros ce qui s'est passé, le bilan qu'on a pu lire dans la presse ici et là, c'est que ces élections ont donné un résultat, alors certains diraient, j'aime pas l'expression, à la soviétique ou presque pour le parti au pouvoir, et qu'au fond, elles ont été trafiquées d'un bout à l'autre, les bureaux de vote ouvrant 3 heures au lieu de 8 heures, des urnes bourrées, enfin, tout ce qu'il est imaginable en matière de trafic électoral a été utilisé pour donner la victoire au parti du président en exercice. Et les autres se sont contentés d'une portion congrue. Alors le PDCI de feu Henri Conan Bédier, et quant au nouveau parti monté par les amis de Laurent Gbagbo et par Laurent Gbagbo lui-même, il a eu beaucoup de difficultés à faire un tout petit peu surface ici et là. Donc en fait, on en est à une élection totalement trafiquée qui ne signifie rien. Et j'en arrivais à cette réflexion globale sur les problèmes de les transitions en Afrique. C'est-à-dire, on dit qu'il y a besoin de changements politiques en Afrique, il y a de gros besoins. Mais en fait, on se trouve dans une situation assez impossible. C'est-à-dire qu'on a le choix entre le coup d'État militaire, et effectivement, on aimerait s'en passer, et des élections trafiquées. Qu'est-ce qui reste quand on a... les élections ne servent à rien puisqu'elles sont trafiquées, et le coup d'État militaire, il ne reste rien. C'est-à-dire que la population peut s'agiter dans tous les sens, elle va saigner parce qu'il y aura des morts dans ces affrontements, et puis en fait, il n'y a pas de technique, en dehors du coup d'État et de l'élection trafiquée, pour changer une société et pour la faire évoluer dans le bien de commun de la majorité de la population. C'est très très grave. Alors, je ne dis pas que ça se passe dans tous les pays d'Afrique, les élections trafiquées, mais il y a de très mauvaises habitudes qui ont été prises. C'est les habitudes héritées du colonialisme. C'est-à-dire, il faut savoir et bien se remettre en tête, parce que c'est la réalité crue, qu'à partir du moment où la France a donné l'indépendance à ses colonies africaines, je dis bien donné, elle l'a donné à des leaders qu'elle avait formés, qu'elle avait sélectionnés elle-même, et que donc elle a voulu que ce soit eux et leurs descendants, les descendants d'Houphouët-Boigny et de Senghor, qui restent au pouvoir. C'est-à-dire, en fait, on a des gens qui ont la nationalité ivoirienne ou la nationalité sénégalaise, qui sont en fait des agents du colonisateur. Alors c'est bien joli l'indépendance, mais ça ne veut rien dire. Et c'est pour ça que, dans la mesure où ils sont mis sur place, financés, aidés, conseillés par des conseillers en relations publiques, qu'ils ont des gens d'instituts de sondage qui viennent préparer les élections pour les trafiquer, effectivement, le peuple a beaucoup de difficultés à pouvoir passer entre ces différents obstacles. C'est-à-dire, soit soutenir un coup d'État militaire qui peut toujours mal se passer, hein, il peut y avoir des morts, soit participer à un processus électoral qui va déboucher sur rien. Hein. Voilà l'impasse dans laquelle, je dis, et je suis très très clair, c'est le colonisateur qui a mis les pays africains, au moins ceux de la colonisation française, dans cette situation-là. Alors on sent bien que cette situation est maintenant comprise par beaucoup de jeunes générations en Afrique. C'est ce qui s'est passé au Niger, c'est ce qui s'est passé au Burkina, c'est ce qui s'est au Mali, mais que c'est un mouvement qui est difficile et que le colonisateur ne va pas laisser se poursuivre sans essayer d'y résister. Les dernières nouvelles sur le Niger, j'en parle puisqu'on a évoqué le Niger et les paroles désastreuses de M. Guterres, c'est que la CEDEAO, qui est, je le souligne, la Commission économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui n'est pas du tout un accord militaire et un accord de stratégie, hein, donc on la sort totalement de ses objectifs, a décidé de préparer des troupes qui vont être massées à la frontière du Bénin et du Niger avec une menace d'envahir le Niger. Ce qui amène l'armée du Niger à dire ben, « moi, je viens de l'autre côté de la frontière et je vous attends ». C'est-à-dire que tout est prêt de la part du colonisateur ancien et de ses laquais de la CEDEAO pour qu'il y ait une tuerie entre Africains. Voilà, on est dans cette espèce de seringue catastrophique et j'espère qu'on en sortira parce qu'il y a heureusement un certain nombre de pays d'Afrique, y compris dans la CEDEAO, qui disent « non, non, ne jouons pas à ce jeu-là ». Parce que là, vous faites encore couler le sang et vous faites encore couler le sang pour les générations à venir. Ça ne sera jamais pardonné par une partie de la population, qu'elle soit nigérienne, malienne, etc., que vous ayez fait ça. Donc, en fait, vous vous tirez une balle dans le pied, vous êtes en train de creuser vous-même votre propre tombe. Mais dans votre tombe, il y aura beaucoup d'Africains en plus. Ça, on ne veut pas. C'est ça la réflexion qu'on peut avoir au jour d'aujourd'hui. Puis on vous tiendra au courant de ce qui se passe pour la suite des événements. Puisque j'en suis dans les événements militaires et les troubles, je voulais parler du 11 septembre, puisqu'on a célébré... Alors, il y a eu une double célébration du 11 septembre, donc c'était hier. On a célébré à la fois, et avec beaucoup plus de bruit dans les médias français, au moins j'ai remarqué, beaucoup plus le cinquantenaire de la chute du régime d'unité populaire au Chili que du 11 septembre 2001 à New York. Alors, pourquoi ? Ben, je vais commencer par le deuxième. Pourquoi on parle plus trop du 11 septembre 2001 ? Parce qu'effectivement, il faut savoir, même si on n'en parle pas, et on pourrait y revenir chaque fois qu'on fait une émission, puisqu'il y a aux États-Unis, ne serait-ce que les familles des morts de New York, du World Trade Center, des scientifiques, des spécialistes en tout ce qu'on veut, en explosifs, y compris les pompiers de New York, qui ont reconnu, il y a quelques mois, que les tours ne s'étaient pas effondrées du fait de l'avion, qu'elles avaient été dynamitées. Alors, j'emploie dynamite, c'était un autre explosif. Bon, c'est les pompiers de New York. C'est pas n'importe qui, c'est pas un monsieur dans la rue qui est en colère contre George Bush. Non, non, c'est les pompiers de New York qui disent non. Alors, on vous l'a caché, mais maintenant, ça suffit. Hein. Ces tours ont été, d'abord, les a mis des explosifs tout le long, et elles ont sauté étage par étage jusqu'à tomber.
Ça se voit d'une façon ou d'une autre. On voit que les tours sont...
Elles tombent tout droit,
verticalement.
Alors, et on le sait tellement qu'on a vu tous depuis des démolitions de bâtiments civils dans des cités mal construites ou abîmées et tout, dans des banlieues en Europe, et qu'on sait très bien comment tombent les bâtiments quand ils sont dynamités de cette façon-là. Ils tombent à la verticale, étage après étage, s'écrasant les uns sur les autres. Je ne reviens pas sur le fait qu'il y a une troisième tour qui s'est effondrée l'après-midi sans avoir été touchée par un avion. Enfin, tout ça est tellement connu dans l'opinion publique aux États-Unis que je ne sais pas s'il y a encore des citoyens des États-Unis qui croient encore la version officielle. Roselyne dit hélas, si, il y en a encore.
Hein. Oui.
Mais il y en a. Enfin, maintenant, tous ceux qui veulent savoir, ils peuvent. Hein. C'est court. Alors après, pourquoi, comment ça s'est passé, etc., dans le détail, on a déjà... J'y reviens pas. Mais de toute façon, il est clair qu'on ne peut plus aujourd'hui faire des grands tremblements de voix, du mélodrame sur le 11 septembre 2001. Ça ne passe plus. dans les opinions européennes, peut-être aux États-Unis encore et encore pas partout, dans le reste du monde encore moins. Donc on n'en parle pas. À la place, on parle beaucoup du 11 septembre 1973 à Santiago du Chili. Avant d'aborder ça, je vais revenir sur les suites du 11 septembre, mais qu'on n'a pas mesurées. Alors, elles commencent à l'être. Il y a une étude très, très intéressante qui a consisté à essayer d'évaluer le nombre de personnes déplacées dans tous les pays qui ont été attaqués d'une façon ou d'une autre par les États-Unis au nom de la lutte contre le terrorisme. Ça, vous avez bien compris. Alors ces pays, j'ai la carte sous les yeux, mais vous le connaissez, il y a la Libye, il y a la Syrie, il y a l'Irak, il y a le Yémen, il y a la Somalie, et là, l'Afghanistan, et le Pakistan. Le Pakistan n'a pas été attaqué en tant que tel, mais comme il a servi de base arrière aux talibans, il a été touché aussi. Et on en arrive à un chiffre, alors je vous donne le nombre de personnes déplacées, alors qui peuvent être des déplacés dans leur pays, parce qu'il y a des lieux de combat qui fuient, ou qui quittent leur pays parce qu'on se bat partout. On en est à quelque chose qui est entre 40 et 50 millions de personnes déplacées, avec tout ce qu'il y a de catastrophes dans les familles, dans les villages, etc. Parce que vous arrivez dans des camps de réfugiés, où vous êtes plus ou moins bien nourris, vous y restez 6 mois, 1 an ou 10 ans, vous n'en savez rien, vous ne savez même pas quand vous en sortirez. Il y a en Turquie des millions de déplacés, de réfugiés syriens qui ne savent même pas quand est-ce qu'ils pourront rentrer dans leur pays. C'est vrai partout. Alors ça, on n'en parle pas. C'est des dégâts collatéraux du 11 septembre et de la guerre contre le terrorisme. Mais c'est des dégâts catastrophiques, de l'ordre de 40 à 50 millions de personnes qui ont perdu leur logement, leur lieu de résidence, leurs écoles, au passage peut-être quelques enfants et quelques membres de la famille. C'est ça la réalité de la guerre contre le terrorisme. Et qui a payé ? Les gens de ces pays-là que je viens de citer, donc Libye, Syrie, Liban,
Irak. Le printemps arabe.
Voilà. Oui, voilà, les printemps arabes. La Somalie, ça a été beaucoup, le Yémen, beaucoup, et puis l'Afghanistan, beaucoup. Voilà, voilà le résultat de la guerre contre le terrorisme. C'est un résultat catastrophique, catastrophique. Et les gens qui ont fait cette étude, c'est des chercheurs des États-Unis qui l'ont fait, disent on en est à ce niveau de déplacement, à des niveaux de la même taille que pour la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas simplement quelques incidents ici et là. Non, non, on ne veut pas le voir. Alors c'est pour ça que la célébration du 11 septembre 2001, ce n'est pas très facile à organiser. Il vaut mieux en dire le moins possible, parce que quand on se met à chercher, ce n'est pas très beau à voir. Et puis j'en arrive donc à la suite des événements pour parler du 11 septembre 1973 au Chili. Pour remettre un certain nombre de choses en lumière. Il faut savoir que Salvador Allende arrive à la présidence de la République au Chili avec un score de 35,5% dans une élection qui se fait avec trois candidats. Le deuxième tour, il y a trois candidats. Et c'est comme ça dans la constitution chilienne. Donc il arrive au pouvoir avec un parlement où il n'est pas majoritaire et avec 35% des voix, alors que la droite en a 33. C'est-à-dire que c'est pas évident. C'est pas évident. Et malgré tout, il faut le reconnaître, l'unité populaire, d'abord, ce n'est pas un parti, c'est un rassemblement de socialistes, de communistes, de quelques partis, petits partis d'extrême gauche et quelques autres des chrétiens de gauche. C'est un rassemblement de partis qui s'est constitué pour l'occasion. Donc, au départ, sa base politique est relativement faible. Il n'est pas majoritaire au Parlement, il a 35% des voix aux élections, donc il n'a pas tout le peuple chilien derrière lui. Et celui qui est derrière, le nommé Alessandri, qui arrive au deuxième tour, est à 33% des voix. C'est la droite dure qui est là, qui a 33% des voix, et qui est là, et qui est installée à ses sièges au Parlement, etc., à ses intérêts économiques, à ses journaux, à son argent. Bon, ça, c'est beaucoup. Et malgré tout, et pour ça, il faut le reconnaître, Allende va essayer de faire avancer un certain nombre des réformes qu'il a avancées dans son programme. Ouais. Distribution de la terre à des paysans les plus pauvres, début de nationalisation d'un certain nombre d'industries de base comme le cuivre, ça, il le fait. Et il sait très bien en faisant ça qu'il fait un programme qui heurte la bourgeoisie et les intérêts internationaux qui sont derrière. Bon. Et il a le courage de le faire et de continuer. Et ce qui est exceptionnel, j'allais dire, c'est que dans cette situation politique où il est fragile, il va jusqu'au bout de son programme et de son entêtement, j'allais dire de son courage, au point qu'il ne va pas perdre des électeurs, il va en gagner. Il va gagner des électeurs. C'est-à-dire que le peuple voit qu'effectivement, il peut avoir confiance dans le processus qui est lancé. ce n'est pas le socialisme qui est créé. Il y a un certain nombre de mesures qui vont dans le bon sens. Bon sens dire. Ouais. C'est ça. Et il faut savoir qu'aux élections législatives qui ont lieu au printemps 1973, je crois qu'on est en avril ou en mai, la majorité de l'Union populaire, enfin, il passe de 35% des voix, le score qu'il a fait au présidentiel, à 44%. C'est-à-dire qu'il a gagné un soutien populaire, il a gagné des élus au Parlement, où il n'est pas encore majoritaire, mais il est sur le chemin de la majorité. J'insiste là-dessus. Il est sur le chemin de la majorité, pas malgré les réformes, à cause des réformes. C'est-à-dire que le vrai soutien, le peuple a reconnu que Salvador Allende faisait du bon travail dans le chemin qu'il avait présenté. Bon. Il le faisait avec la prudence qu'il fallait, parce qu'il savait que le terrain n'était pas facile, mais il le faisait. Et il savait qu'il ne se faisait pas des amis partout, et il savait que ses amis étaient mal vus, je pense à une visite qui a été beaucoup relatée, mais qui a duré longtemps. Je crois que Castro a passé 10 jours avec Allende, et après la victoire d'Allende en 1970, et lui a remis une Kalachnikov en souvenir.
Ouais.
Enfin, voilà. Bon, ça, c'est pour la... Mais de toute façon, il est clair...
C'est pour le prévenir.
Voilà, c'est pour... Exactement. Exactement. Mais c'est ça qu'il faut savoir. Et donc, la popularité de l'unité populaire augmente. Et à ce moment-là, on est au printemps 1973. Et à Washington, on dit, mais attends, ça ne va pas du tout. Parce qu'aux prochaines élections présidentielles, il va passer avec 50% des voix. Et là, alors, ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué pour nous. Hein. Et donc, il faut trouver quelque chose. Hein. Il faut trouver quelque chose. Et puis, il ne faut surtout pas... Alors, il faut resituer aussi ce qui se passe dans la tête de Nixon et de Kissinger. C'est dire, on est en train de perdre le Vietnam. C'est quasiment fait. Hein. Et donc, si on perd aussi au Chili... tout s'écroule. C'est l'Empire s'écroule d'un seul coup. En 6 mois, 1 an, il n'y a plus rien. Hein. Donc il ne faut surtout pas que l'unité populaire réussisse en Amérique latine, parce qu'autrement, si l'unité populaire réussit, c'est toute l'Amérique latine qui nous part entre les mains. On perd tout. Alors on aura perdu le Vietnam, bon, ça c'est perdu, ben, on n'en parle plus. Puis si on perd l'Amérique latine, on n'est plus rien. Hein. Et donc la décision qui est prise, c'est d'être beaucoup, beaucoup plus dur en Amérique latine. Si ça a été possible, enfin, il faut prendre les choses tout de suite à la racine avant que ça devienne un deuxième Vietnam. Hein. Et souvenez-vous, les discours du Che, 1, 2, 3 Vietnam, etc. Surtout pas. Bon. Et à partir de ce moment où ils ont fait cette analyse en disant il faut surtout pas que ça dégénère côté Amérique latine. Et donc le mauvais exemple, c'est Castro, on s'en occupe par ailleurs. Bon. Et puis le deuxième mauvais exemple, c'est Allende. Et même c'est pire, puisqu'il est arrivé par des élections. Il va... progresser, il progresse avec des élections, et aussi bien il va faire la politique, une politique socialiste, en étant élu pour ça. Alors ça, c'est absolument inacceptable et insupportable. Donc à ce moment-là, on s'est dit, bon, il va falloir intervenir très, très sérieusement. Et tout se met en place. Tout se met en place, des grèves de conducteurs de camions qui... font que l'approvisionnement n'arrive pas, les magasins qui se vident, comme par hasard, il n'y a plus de stock de rien du tout. Enfin, on met la population en situation de critiquer le gouvernement qui est incapable. On crée les conditions de la catastrophe. Alors ça se fait avec l'appui des grands journaux, l'appui de la droite qui est bien au courant, et l'appui de l'armée, au point qu'à un certain moment, il y a une première tentative de coup d'État qui échoue au mois de juin. Et à ce moment-là, Allende fait... Alors, est-ce qu'il n'aurait pas dû le faire? On ne sait pas. Mais il nomme Pinochet comme ministre de la Défense. Parce qu'il voit bien que c'est lui... Alors, Pinochet passe pour un général qui fait de la géopolitique, qui sait ce qu'il fait. Et peut-être, je pense, Allende de dire il vaut mieux qu'il soit avec nous que contre nous.
Ouais. Hein. Ouais. Mal calculé.
Mal calculé. Bon, ça arrive. Hein. Donc, ceux qui avaient piloté Pinochet avaient bien compris le jeu. Allende a fait ce compromis en pensant qu'il allait sauver la mise comme ça. C'était pas le calcul qu'il fallait faire. Il ne faut pas lui en faire le reproche. Il était dans une situation difficile. Et donc, Pinochet fera ce pourquoi il a été sélectionné, et bien sélectionné, car il avait été bien formé aux États-Unis. Il avait été formé à toutes les techniques de la contre-insurrection, et il va les appliquer systématiquement. C'est-à-dire que...
Un livre a été écrit par Pablo de Neruda.
Oui, par Pablo Neruda.
Ouais, c'est ça. C'est...
Et il faut savoir donc que toutes les pires techniques de réaction contre un gouvernement socialiste ont été appliquées par Pinochet après qu'il ait pris le pouvoir. C'est-à-dire détruire interdire tous les partis politiques d'opposition, les détruire physiquement, c'est-à-dire pas simplement les interdire de se réunir, non, non, prendre les militants un par un et les tuer quand on peut, quand ils n'ont pas fui, et faire disparaître ceux qui sont trop durs. C'est-à-dire que le chiffre des disparus n'est pas énorme, c'est quelques milliers. Mais c'est au Chili que se met au point la technique des disparus, qui sera utilisée ensuite en Amérique latine dans le plan Condor à partir de 1976, en Argentine, en Bolivie, etc. C'est-à-dire que les opposants trop solides, trop déterminés, un beau jour, on ne les retrouve pas.
Ils ont été exécutés sur des terrains de football.
Par exemple, tout a été possible. Il y en a d'autres qui ont été jetés dans la mer depuis des avions, etc. Enfin, tout était possible. C'était ça, les disparitions. Et il faut savoir, vous en avez certainement entendu parler à propos de ce qu'on appelle les mères de la place de Mai, que pendant des décennies, les mamans de ces disparus ont manifesté en silence autour dans la première place de Buenos Aires en disant « Où sont nos maris, nos fils, etc. Hein ?» n'ayant jamais eu de réponse. C'est ça. Alors, l'acquis, si j'ose dire, l'acquis dont on se passerait, l'acquis Pinochet, c'est ça. Les techniques les plus dures de la contre-insurrection et de l'éradication du mouvement de gauche, il les a appliquées. Ouais. Et il les a appliquées avec les conseillers qui venaient, bien entendu, des États-Unis. Alors, non seulement ça, c'était l'opération politique. Et puis l'opération économique, puisqu'il y avait les deux aspects, l'opération économique, ça voulait dire imposer l'idée que le secteur public, ça ne marche jamais, le privé, ça marche toujours très bien. Il faut tout privatiser parce que le privé, ça marche. Dans l'éducation, ça marche. Dans la santé, ça marche et tout. Et voyez, alors le dit, si vous voyez aujourd'hui encore, puisque la démocratie est en apparence rétablie au Chili, le coût d'inscription dans les universités ou dans les même dans les bons lycées, c'est très 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 cher parce que rien n'a été rendu au secteur public. Parce que le Chili est encore marqué dans sa vie quotidienne par ce passage. Il faut savoir que ça a été un champ d'expérimentation de toutes les techniques de privatisation qui vont être mises en œuvre après. Et pour synthétiser, pour bien faire comprendre ce qui se passe le 11 septembre 1973 et dans les 17 années qui suivent, il est quand même resté au pouvoir 17 ans, Pinochet. Il est parti sans avoir été accusé de rien du tout et sans être paru devant aucun tribunal. Bon, tout ça, ça s'est mis en place. Et ça a été un banc d'essai et ça a été un modèle de contre-insurrection qui a été utilisé partout parce qu'il en est, le prototype existait, il suffisait de copier. Ça a été utilisé en Argentine, ça a été utilisé en Bolivie, ça a été utilisé en Colombie, tout ça a fonctionné. Ça avait déjà un peu commencé au Brésil qui avait un peu d'avance là-dessus, mais ça a été intensifié. Ce que vous avez entendu sous le nom de plan Condor, c'était la généralisation de la méthode Pinochet à l'ensemble de ce qu'on appelle le Col Sud de tous les pays du sud de l'Amérique latine. Et puis, cette idée de privatiser pour dire que le secteur public, ça ne marche pas, hein, c'est une idée qui s'est imposée après... Après que l'expérience chilienne ait été faite et réussie du point de vue de ses promoteurs, c'est ça qu'ils disent. Regardez, ça a marché. Oui, bien sûr, avec des milliers de morts, avec une impossibilité d'une vie politique, ça a marché. Mais tout ça a été utilisé à partir de 1980 par M. Ronald Reagan et par Mme Margaret Thatcher qui ont dit ben, « Regardez, quand on privatise, tout marche bien ». Alors, ils n'ont pas compté les morts, ils n'ont pas compté les disparus, ils n'ont pas compté les souffrances. Non, ça marche bien. Et donc, l'apparition de ce qu'on a appelé depuis le capitalisme néolibéral, qui prend son envol, là, ça devient, tout le monde en parle, c'est ça qu'il faut faire, etc., c'est 80. Mais le prototype, le banc d'essai, c'est Pinochet. Alors, ça prend le temps, ça prend le temps de l'histoire. Oh, 7 ans, c'est pas très, très long en termes d'histoire humaine, mais c'est bien ça que ça veut dire. Ça a été expérimenté et, ça, et tout le monde s'y est mis. Et même, jetons un petit regard, à la limite, bon, sympathique pour la France, c'est-à-dire Mitterrand arrive au pouvoir en 80, Ronald Reagan et Thatcher y sont déjà, on sait très bien de quel bois ils se chauffent, on sait très bien, et les socialistes français savent que Allende était un socialiste et qu'il en est mort, tout ça ils le savent très très bien, mais ils tentent leur chance. Et en fait, ils vont tenter leur chance avec quelques réformes, dont la retraite à 60 ans, je le note, parce que c'est à ce moment-là que ça s'est joué. Et puis deux ans après, ça craque. C'est-à-dire que quand Monroy quitte le Matignon et qu'il est remplacé par Fabius, ça veut dire que Mitterrand dit « Bon, je suis allé un peu à contre-courant du système, mais maintenant je capitule, le système a gagné, et maintenant la politique néolibérale, c'est la bonne, et puis de toute façon, on ne s'en sortira pas contre les Américains. » Voilà, c'est tout à fait clair. Bon. Alors il y a eu ces espèces de deux années, l'état de grâce de Mitterrandien, qui a apporté un certain nombre de satisfactions. Et puis après, c'était fini. C'était retourné parce que de toute façon, la France, aujourd'hui encore, n'est pas en capacité, puisqu'elle est dans l'OTAN, elle est dans l'Union européenne, n'est pas en capacité de s'opposer à une politique néolibérale voulue par Washington. Il y a une politique militaire. Donc il faut, la seule façon de s'y opposer, c'est de sortir. C'est-à-dire, vous sortez de l'OTAN et à ce moment-là, vous redevenez indépendant. Tant que vous êtes dans l'OTAN, vous n'êtes pas indépendant.
C'est attaché.
Et donc, vous ne pouvez pas mener la politique que vous voulez et vous ne pouvez pas proposer à vos électeurs de mener une politique puisque vous savez très bien qu'elle n'est pas possible. Alors, j'en profite, j'anticipe un peu. On votera l'année prochaine pour les élections au Parlement européen. Vous allez avoir toute une série de partis qui vont vous dire « Oui, l'Europe, bien sûr, il y a des critiques, mais on veut l'Europe sociale. » Alors. Ne n'ouvrons pas les oreilles, ne donnons pas crédit à ces propos. C'est impossible l'Europe sociale, puisque c'est contraire au traité. Hein, c'est contraire à tout ce que les gouvernements français successifs ont signé. Bon, donc ne rêvez pas, ne faites pas prendre des vessies pour des lanternes. L'Europe sociale, c'est pas possible. On peut faire une France sociale en dehors de l'Europe. Hein. Et une France en dehors de l'Europe, je le dis, on en reparlera sûrement dans l'année qui vient à propos de une France de 65 millions d'habitants, avec des richesses, des capacités, est tout à fait capable d'avoir une politique intelligente et qui ne soit pas dictée par Washington. Il y a des États plus petits que nous qui se permettent de le faire. Donc n'essayons pas de dire on est trop petit. Simplement, il faut vouloir être à sa taille et être capable de. Alors, après, en plus, si effectivement une politique française d'homme, ça voudrait dire laisser les colonisés africains tranquilles, ça ferait partie aussi d'un choix. Hein. Mais, alors, je ne sais pas. Rêvons ensemble. On y reviendra, sans doute. Alors, j'en étais où ? Ah oui, parce que puisqu'on en est à parler de la situation française, vous avez entendu parler des stades à Marseille, hein, oui. Puisqu'il s'est passé des tas de choses, des événements qui ont été largement médiatisés. Et puis il y en a un autre qui a été peut-être un peu moins médiatisé en dehors de Marseille, mais je vous le livre, puisque le stade Vélodrome, ce qu'on appelle le stade Orange maintenant, puisqu'il a été privatisé, qui est donc le grand stade de Marseille, 66 000 places je crois, où vont avoir lieu un certain nombre de matchs de la Coupe du Monde de rugby, donnera lieu, ça sera donc le 23 septembre, je crois que c'est en semaine, je crois que c'est un jeudi, à un événement pas du tout sportif, mais politiquement très très intéressant, c'est-à-dire qu'il y aura une messe donnée par le pape François au stade Vélodrome.
Oui, c'est vrai.
Alors, c'est pas lui qui fera l'office, il fera une homélie, c'est-à-dire un prêche, si vous voulez. Hein. Mais donc, il y aura, le stade sera plein, il y aura donc 60 000 personnes dans le stade pour écouter l'homélie. Or, tout ça se fait dans notre pays laïque avec l'assentiment de la mairie qui dit elle-même qu'elle a invité le pape, qu'elle a fait, elle est intervenue pour que le stade Vélodrome soit confié dans les conditions financières qui n'ont pas été écrites dans la presse au cardinal de Marseille, puisque l'archevêque de Marseille a été nommé cardinal il y a 2 ans, pendant l'été. Et puis, ce qu'il faut savoir, qu'il y a un appui pratiquement de toutes les collectivités territoriales. La mairie, donc, qui se vante d'avoir facilité l'arrivée du pape et la tenue de cette messe. Le conseil départemental, le conseil régional. Tout le monde est très, très content. C'est-à-dire que la France républicaine laïque, quand on regarde ses élus, ils ne sont pas très laïques, puisque en fait, ils trouvent que c'est très, très bien. Alors, quand M. Darmanin dit « Oh, ben, de toute façon, toutes les religions peuvent s'exprimer librement », J'attends une réunion avec un rabbin qui parlerait de ce qu'il pourrait parler, donc de la Torah dans le stade Vélodrome, ou une réunion avec un imam qui viendrait pour dire voilà, je vais vous faire un commentaire sur le Coran au stade Vélodrome. Ça, je pense que ça n'aura pas lieu. Donc, je dis deux poids, deux mesures. Mais ça, voilà, c'était bon de le noter. Alors, il y a quelques réactions. Dis-nous. Vas-y.
Excusez-moi, mais moi j'ai cru comprendre que c'était quand même une rencontre écuménique, qu'il y aurait des rabbins.
Ah oui,
des
non, mais
imams,
voilà, à la tribune. Mais on ne leur donnera pas, eux, le stade de la. Oui, non, c'est vrai, non, il faut pour le geste, bien sûr. Non, c'est vrai, non, Roselyne a raison. Il y a effectivement le geste de dire « je suis œcuménique ». Ça fait partie d'ailleurs de la façon de travailler du pape, qui essaye de parler aux orthodoxes, de parler aux autres religions. Simplement, je voulais signaler le soutien de toutes les collectivités territoriales et des élus de droite, du centre et du Parti socialiste avec Payan, qui n'y est plus, mais enfin qui en est proche, à cette initiative. Ça se passe à Marseille. Donc, alors, qui s'insurge ? Ben, un certain nombre de gens. Et puis, la libre pensée qui fait son travail en disant, mais attendez, l'État laïque, ça veut dire qu'on ne favorise pas une religion. Hein. Ça voudrait dire, je reviens dessus, qu'on prête le stade Vélodrome à qui le veut. Hein. Bon, ça n'aura probablement pas lieu, au moins d'ici un certain temps. Je regarde l'heure pour vous donner un certain nombre d'autres nouvelles intéressantes. D'une part, ah oui, ça fait partie des suites des BRICS. Il y en a toute une série de suites des BRICS, d'une part. La première chose, c'est que donc, le G20 va se tenir, et le G20 va poser un problème, puisqu'il va manquer deux chefs d'État importants, le président chinois et le président russe. Alors il y aura bien sûr un ministre qui sera là, le premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères, mais c'est pas pareil. Et donc du coup, ça affaiblit le G20. Ça affaiblit le G20 et ça l'a tellement affaibli que dans la déclaration finale, vous savez que dans ces réunions qui sont un peu informelles, puisqu'il n'y a pas de statut, il n'y a pas de règles écrites, mais on essaye de faire à la fin un bilan et on fait un texte commun qu'on propose à la signature de tous les présents, donc des 20 présents, pour dire voilà sur quoi on s'est mis d'accord. Alors là, les délégations donc des États-Unis et des membres de l'Union européenne sont arrivées en disant on veut dans le texte, et ils ont proposé un texte qui condamne l'agression de la Russie en Ukraine. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce c'est que vrai. Le premier ministre indien, il a dit non, on est pour la paix, pour des négociations, c'est tout. Et ça vaut partout, pas qu'en Ukraine. Donc voilà. Donc il a refusé la condamnation officielle de la Russie par tous les membres du G20. Donc ça prouve que dans le G20 même, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas jouer à ce jeu-là. Mais ça fait comprendre aussi pourquoi le président chinois et le président russe n'y vont pas, puisqu'ils savaient très bien que c'est ça qui allait se passer. Qu'on les allait mettre en accusation devant tous les autres. Vous avez fait ci, vous avez fait ça. Bon, donc ils ne sont pas l'air de dire, on connaît la comédie, ça leur est déjà arrivé. Résultat, la déclaration finale du G20 n'est pas tout à fait conforme aux ambitions de Washington. Et c'est tant mieux. Et puis, il y a un autre centre d'intérêt, c'est les relations. Alors c'est très important parce que ça va nourrir une partie de l'actualité en Asie pendant les mois qui viennent. Il y a un sommet de l'association des Asie du Sud-Est, l'ASEA, on dit ANAS en français, la même chose. Et le Premier ministre indien a pris soin de rendre visite au président indonésien pour dire on travaille ensemble, on reste sur nos positions d'indépendance par rapport à tous les camps, on n'obéit pas. Alors, il ne l'a pas dit à la télévision, mais on n'est pas là pour obéir aux États-Unis. Vous êtes désormais une puissance. Je rappelle que l'ASEAN, c'est 700 millions de personnes et c'est des économies qui sont parmi les plus performantes à l'heure actuelle sur la planète. Donc, c'est pas, ils sont à prendre au sérieux. Hein. C'est plus puissant que l'Union européenne aujourd'hui, l'ASEAN. Mais on ne veut pas le savoir. Hein. Donc, du côté du Premier ministre indien, une grande compréhension des enjeux. Il ne veut pas se fâcher ouvertement avec les États-Unis. Ce n'est pas le but. C'est d'ailleurs pas le but des BRICS, mais il dit qu'il faut éviter les manipulations des pays qui sont avec nous, avec lesquels on peut travailler et qui veulent être maîtres de leur destin sans que les États-Unis décident à leur place. Et quand il dit ça à un président indonésien, il y a quelque part dans la tête de ce président indonésien un souvenir, une petite lumière qui s'allume et qui dit « Souviens-toi de 1965 ». Souviens-toi de 1965, quand les États-Unis ont dit « il faut que le Parti communiste indonésien disparaisse ». Disparaisse ! C'est pas seulement on l'interdit, il n'a plus le droit de faire des journaux ni des... Non, il disparaît. On a assassiné 1 million d'Indonésiens, tous ceux qui, de près ou de loin, avaient des sympathies communistes.
C'est vrai.
Ça, dans la mémoire, peut-être pas de toute la population indonésienne, mais dans la mémoire d'un chef d'État, ça laisse une trace. Ça laisse une trace. Et donc, quand Modi vient dire à Wikoko, eh ben, écoute, on va faire attention, restons ensemble et serrons-nous les coudes. Et l'autre, il dit, il ne faut pas que ça recommence. Je ne veux pas 1 million d'assassinés par la CIA et ses amis. Hein, et par l'armée indonésienne, parce qu'il y a une partie de l'armée indonésienne qui a fait le travail. Le travail. C'est pas, les Américains tenaient juste les ficelles des marionnettes. Ça, c'est bon à rappeler. Ça, un premier effet, donc, des BRICS et des rapports avec le G20. Autre chose intéressante, l'Italie a décidé de sortir de la politique de la route de la soie. Pourquoi ? Alors, il faut savoir que l'Italie avait signé, elle était, et reste encore à la date d'aujourd'hui, parce que la sortie aura lieu l'année prochaine, au printemps, puisque ça faisait partie d'un accord écrit. L'Italie a été le seul pays de l'Union européenne qui avait signé avec la Chine un accord pour participer à la route de la soie, à la nouvelle route de la soie. ça avait grincé à Bruxelles, très fortement, disant, mais comment, c'est des ennemis, etc. Bon, l'Italie y avait trouvé des avantages, entre autres le fait que les Chinois avaient financé un certain nombre d'infrastructures en Italie, dans le réseau électrique, dans les autoroutes, parce que l'Italie n'avait pas assez d'argent, et donc les Chinois avaient dit, si on peut faire quelque chose pour vous, on le fait. Et donc, ça avait quand même grincé. Et donc, comme la nouvelle présidente du Conseil, Giorgia Meloni, est un enfant des États-Unis, où elle est allée d'ailleurs finir sa campagne électorale l'année dernière, donc ça en dit beaucoup, on lui a dit, maintenant, les amitiés avec la Chine, ça suffit. D'abord, ça fait tâche, c'est le seul pays de l'Union européenne qui a passé l'accord avec ce genre-là, avec les Chinois, on n'en veut plus. Et donc, elle a annoncé qu'effectivement, l'accord ne serait pas renouvelé, donc au printemps 2024, l'Italie quittera la route de la soie. Qu'est-ce qui lui arrivera après? On verra bien. Il y aura peut-être encore plus de médecins cubains, des professeurs cubains, tout ce qu'on veut, parce que l'Italie est dans un état de déliquescence assez avancé. C'est autre chose. Ça, c'est un autre effet. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a d'autres relations qui se mettent en œuvre et ça se juge à d'autres instants, c'est-à-dire qu'il se tient ou il s'est tenu un forum à Vladivostok. Alors ça, le forum Vladivostok, c'est la grande ville de l'extrême-orient russe, à l'image de ce qui se tient en général à Saint-Pétersbourg, qui est le forum pour la Russie européenne, où on parle business, on parle affaires, investissements, prise de participation et tout. Et là, tout le monde vient. Tout le monde vient, ça veut dire que tout le monde participe à la politique de la Russie qui consiste à dire qu'il ne faut pas que la Russie ce soit juste une moitié, comme on veut la voir en France ici, qui s'arrête à l'Oural, où il y aurait tous les habitants et toutes les richesses, et puis après, plus rien, un immense territoire où il y a juste un train, le transsibérien, qui traverse, et rien d'autre. C'est pas vrai. D'abord, une bonne partie des richesses de la Russie sont sur la totalité du territoire, y compris l'Est, et il y a une population qui est là, et puis il y a intérêt à ce que, et la Russie a bien compris que c'est son intérêt, c'est d'avoir une fenêtre sur l'Orient, sur l'océan Pacifique, face à la Californie et à l'Alaska, je précise, face au Japon, pour dire que là, ce n'est pas simplement des garnisons militaires qu'on a installées pour surveiller la frontière. C'est un endroit où il y a une vie économique possible, où on peut investir, où il y a de grosses ressources naturelles, minières, pétrolières, gazières, il y a de quoi faire une économie florissante. Et ils trouvent beaucoup de gens, y compris des Japonais, des sociétés japonaises, pour s'y intéresser. C'est ça qui se passe et c'est très intéressant de voir. Et y compris, ils ont invité à cette occasion, et ça va être suivi par une visite officielle, le président de la Corée du Nord vient et participe à ces rencontres-là. Ouais, il y est. Et donc il va aller à Moscou. Après, il y aura une visite officielle qui sera la première du genre entre le président de la Corée du Nord et le président russe. Et puis des délégations. On va parler sérieux, parler échange, complémentarité, échange de techniques, ouais, conseils, etc. Il faut savoir. Alors, les Coréens du Nord n'ont pas attendu cette main tendue de la Russie pour faire avancer leur industrie et leur capacité technologique. Il faut savoir, c'est une des dernières nouvelles qu'on a apprises, c'est que la Corée du Nord vient de lancer un sous-marin en capacité de lancer des fusées à tête nucléaire.
Des ogives nucléaires.
Voilà, ça en dit très très long. Alors, on pallie au département d'État, à la Maison-Blanche, parce que même s'il n'y en a qu'un qui se promène et qu'il est difficile à détecter, ce sous-marin avec ses fusées nord-coréennes, avec ses missiles et ses bombes atomiques nord-coréennes, peut venir se placer au large de Los Angeles et faire des dégâts. Et donc, en fait, on a une véritable frayeur de la part de l'état-major américain que ça aille plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sous-marin, mais deux, mais trois. C'est-à-dire que les capacités techniques de la Corée du Nord, même si elle a, pour des raisons qu'on s'explique, beaucoup concentré ses capacités sur les recherches militaires, parce qu'elle voulait sauver sa peau, mais sont à un niveau extrêmement élevé. Et d'une certaine façon, la visite en Russie montre que la Russie reconnaît cet état, bien que la Russie soit pas le régime russe, n'est pas un régime communiste mené par les militaires, mais ils reconnaissent cette capacité réelle, politique et technique, c'est-à-dire ils reconnaissent ce que les Chinois ont fait de leur façon, c'est-à-dire c'est bien joli politiquement d'être en opposition avec l'Occident, si de toute façon vous savez rien faire tout seul, c'est l'Occident qui vous nourrit, c'est l'Occident qui vous fabrique tout, vous êtes totalement dépendant, vous pouvez crier très très fort, ça sert à rien. Il faut que vous soyez autonome. C'est ça qui se passe avec cette visite. C'est très intéressant. Dernière réunion importante de la semaine, on finira là-dessus, c'est la réunion du G77. Alors, je dis bien G77, ne pas confondre avec le G7. Alors, qui c'est les 77? Ben, ce n'est pas 77 pays de l'ONU, c'est 150 pays de l'ONU. C'est, alors, j'allais dire, je simplifie et je voudrais vexer aucun de ceux-là. C'est les moins riches. Ce n'est pas les pauvres, c'est tous les moins riches. Hein, parce que vous enlevez les 20 de l'Union européenne, vous enlevez les États-Unis, le Canada, le Japon, il ne reste pas grand monde. Hein. Et en fait, tous ceux-là, ils se sont réunis, mais ce n'est pas d'hier, ça date de 25 ans, dans le G77, qui est là sur une base très claire. Nous sommes les moins riches de la planète, nous voulons notre place, nous voulons que les objectifs qu'a fixé l'ONU, c'est-à-dire que tout le monde, en 2030, ait accès à la nourriture, à l'eau, à l'électricité, on en est encore loin et on a plutôt reculé depuis plusieurs années, hein. Nous voulons que ces objectifs soient atteints et nous voulons que l'ONU nous soutienne là-dedans. Donc ils se réunissent et ils se réunissent à La Havane à la fin de cette semaine parce qu'il y a une présidente tournante du mouvement du G77 où ils vont préparer les positions qu'ils vont défendre à l'Assemblée générale de l'ONU à la fin du mois et en octobre. Donc, on en parle peu parce qu'effectivement, on considère que c'est les petits, les obscurs, les sans grade, comme disait l'autre. Mais en fait, ces petits-là, quand on réunit tous ces pays-là, chacun avec ses problèmes, d'énormes différences entre les uns et les autres, bien sûr. Hein, vous mettez à côté l'Afghanistan et l'Uruguay, ça n'a pas beaucoup de ressemblance. Et il n'empêche qu'ils ont un discours commun. L'humanité doit progresser tout ensemble, il ne doit pas y avoir de laisser pour compte, et donc tout tenons à ce que l'ONU, dans le respect de la charte, fasse avancer les objectifs qui ont été fixés collectivement. C'est la voix des pauvres, je le dis pour faire simple, et elle s'exprime et elle s'organise. Mais on en parle peu parce que, d'abord, la France n'en fait pas partie, et on considère que bon, c'est les petits qui s'époumonnent un peu. Mais les petits sont organisés, se connaissent, ont l'habitude de plus en plus de travailler ensemble, se serrent les coudes et, de plus en plus, portent une voix collective pour dire « Attention, les grands ne doivent pas écraser les petits ». C'est tout à fait conforme à la charte de l'ONU. Hein, voilà. Et puis, ah oui, dernier écho du G20 et des BRICS, parce que j'ai salué, vous vous souvenez, j'ai salué l'arrivée concomitante dans le BRICS de l'Éthiopie et de l'Égypte. Bon, c'était très bien. Et j'avais souligné que ça allait effectivement donner matière à une discussion entre amis, maintenant, puisqu'on peut considérer qu'il s'agit d'amis, sur une question qui reste très, très sensible, c'est la question du grand barrage. Bon. Ouais. Alors, il se trouve que la question a rejailli presque immédiatement, c'est-à-dire que le président éthiopien, fort de son accession au BRICS, a dit « Moi, j'ai un barrage, je le remplis hein. ». Et il a dit, et je considère, et je m'engage à ce qu'on ne prive pas les voisins, soudanais et égyptiens, d'eau. Alors, ce discours n'a pas été bien reçu tout de suite, ni au Caire, ni à Khartoum. Enfin, à Khartoum, il n'y a plus grand monde qui répond, d'ailleurs. C'est un peu la pagaille. Mais ça a été mal reçu en Égypte. Donc, on est devant... Alors, ce désaccord entre l'Éthiopie et l'Égypte avait déjà été formulé depuis des années. Et puis, on tournait en rond. On n'arrivait à rien. Bon, là, il va bien falloir, et ça, c'est l'avantage des BRICS, c'est-à-dire qu'avec la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, enfin tous les membres des BRICS puissants, l'Inde, on dit, bon, il faut trouver une solution, parce que cette question d'un fleuve qui traverse plusieurs pays, elle ne se pose pas que sur le Nil, ça se pose dans beaucoup d'endroits. Il faut qu'il y ait des règles du jeu, hein, on pourrait le dire ça à Erdogan aussi à propos du Tigre et de l'Euphrate, il faut qu'il y ait des règles du jeu entre les pays qui sont sur le bassin du même fleuve. Il faut pas qu'il y en ait un qui dise « je t'étrangle, je te coupe l'eau, hein, je t'assassine ». Ça, c'est pas possible. On est dans un monde où il doit y avoir des relations normales entre les États. Bon, ça, le BRICS va favoriser ce genre d'échange. Alors, j'ai noté la première réaction égyptienne, c'est la même que depuis il y a un an, il y a deux ans, c'était toujours la même, en disant « l'Éthiopie décide tout seul ». Bon, là, le président éthiopien a franchi le pas, il a dit « bon, je connais, le barrage, il est fini, je finis de remplir la réserve, qui est énorme, mais je m'engage à ce que ne pas priver d'eau mes voisins ». Bon, on va voir. Là aussi, c'était un test concret sur des questions concrètes, mais vitales, puisque hein, l'eau au Soudan et l'eau en Égypte, c'est vital. Ah, hein. Oui. Et donc, en même temps que l'électricité pour les 110 millions d'Éthiopiens, c'est vital aussi. Donc, on a chacun ses intérêts, on a ce fleuve qui nous relie et qui devrait nous obliger à travailler ensemble. Et on a des amis autour de nous qui vont essayer de prendre en compte et puis même donner un coup de main ici ou là, donner une aide, enfin donner des conseils, envoyer des techniciens. Il y a des tas de possibilités d'intervention de spécialistes chinois des barrages, de spécialistes russes des réseaux électriques. Il y a des gens très, très pointus dans les pays des BRICS sur tous ces aspects-là. Bon, donc on en parlera et on ne va pas se faire la guerre pour ça. Hein. On ne se fera pas. Il n'y aura pas de guerre de
l'eau. Ouais,
c'est ça qui est très, très intéressant à noter. Voilà ce que je voulais dire avant que nous en finissions. Donc, la semaine prochaine, n'oubliez pas, on se retrouve non plus à 15h, mais à 14h. Et n'oubliez pas demain d'écouter l'excellente émission sur la médecine cubaine qui nous apprend beaucoup de choses sur la médecine cubaine et qui nous fait réfléchir aux carences de la médecine française. Ça fait partie du sujet puisque, dernier chiffre, il y a à Cuba, pour assurer ce service médical gratuit de très haute qualité, je le dis, 8 médecins pour 1000 habitants, c'est la façon dont on calcule en général. En France, il y a 3 médecins pour 1000 habitants.
Et encore. Bon.
Voilà. Et encore avec difficulté, on n'a pas de facilité pour prendre un rendez-vous tous les jours. Voilà. Merci Roselyne, merci de votre attention. Et à la semaine prochaine, à 14h.
Merci Rose.